On écoute tous la même chanson, mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame, et aujourd'hui je reviens dans vos oreilles pour décortiquer une petite pépite méconnue, l'opus considéré comme le meilleur d'un groupe de rock indé que j'aime énormément, Misery is a Butterfly du trio américain Blonde Redhead. Je cherchais depuis quelque temps une idée d'album à analyser, et celui-ci s'est imposé comme une sorte d'évidence après un de leurs concerts il y a quelques mois. Misery is a Butterfly est un album qui m'accompagne très régulièrement depuis sa sortie, et je ne m'étais jamais vraiment rendu compte à quel point il comptait pour moi. J'en connais chaque note, certains titres font probablement partie des chansons que j'ai le plus écoutées dans ma vie, et pourtant, ce n'est qu'en révisant la setlist que j'ai réalisé cette sorte d'obsession qui dure depuis presque 20 ans. Si on ajoute à ça le statut culte que l'album a acquis pour tout un tas de gens, tout en restant finalement méconnu du grand public, je pense qu'on a un candidat parfait pour l'émission. Mais avant de commencer l'analyse à proprement parler, un petit rappel promotionnel, si vous appréciez Écoute ça, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don via le site Tipeee, dont le lien est en description. J'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui y ont contribué après l'épisode sur Gainsbourg et Vanier, mais aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et des mails pour dire du bien de cet épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à dire à vos podcasts préférés que vous les aimez, on n'a pas vraiment de visibilité sur l'audience façon médiamétrie dans ce milieu, donc les retours sont hyper importants pour garder la flamme. Et si vous n'avez pas les moyens de faire un don, il reste toujours l'option commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Ceci étant dit, c'est parti pour la découverte d'un des plus beaux albums que je connais, et si vous n'en avez jamais entendu parler, Misery is a Butterfly, ça ressemble à ça. Misery is a Butterfly est sorti en 2004 et c'est le sixième album du groupe qui a commencé sa carrière au début des années 90. Si l'extrait que vous avez entendu est plutôt révélateur de ce qu'ils sont devenus avec le temps, à leur début, leur musique était classée dans le rock alternatif tendance noise dans le sillage des Sonic Youth et autres Fugazi. Difficile effectivement de faire le rapprochement entre l'album d'aujourd'hui et un titre comme Astro Boy tiré de leur premier album solo en 1994. Pourtant, c'est bien dans ce petit milieu qu'ils vont faire leur trou. Ils vont se nouer d'amitié avec Fugazi, spécifiquement avec le guitariste Guy Picciotto, qui produira ensuite une grosse partie de leurs albums, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui. Par ailleurs, cette scène foisonnante autour de Washington et qui mélange noise, post-punk, bruitisme et expérimentations diverses et variées n'est pas sortie de nulle part. Par exemple, le nom Blonde Redhead vient d'un titre d'un groupe qui s'appelle DNA, et le mieux est que je vous fasse écouter de quoi il s'agit. Plutôt perché, n'est-ce pas? D'ailleurs, la chanteuse de Blonde Redhead, Kazu Makino, a avoué depuis en interview regretter ce nom choisi à la va-vite à l'époque. Alors, si tout ce background très rock peut surprendre les personnes qui découvrent la discographie de Blonde Redhead depuis le début des années 2000, il faut savoir que certaines choses n'ont pas vraiment changé, à commencer par l'élément le plus segmentant, les voix des deux personnes au chant. Dans le titre Astro Boy, vous avez pu entendre Kazu Makino qui possède une voix assez singulière et, il faut bien le reconnaître, pas toujours hyper juste. Mais il ne faut pas laisser sur le côté son compère Amadeo Pache, également guitariste du groupe, qui prend la seconde moitié des lignes. Même chose, on trouve un chant assez haut pour une voix masculine et qui joue elle aussi avec les limites de la justesse parfois. Pour autant, c'est une immense force pour eux car ça donne à leur musique une forte identité, et je me souviens assez bien que j'avais été très déstabilisé quand je les ai découverts avec le premier titre de leur deuxième album, La Mia Vieja Violenta, le morceau I Still Get Rocks Off. Et si ce titre donne l'impression qu'il y a un partage du chant, c'est en fait pas vraiment le cas, surtout sur Misery is a Butterfly. Sur cet album, il y a une parfaite alternance entre les titres, un pour Kazuma Kino, un pour Amadeo Pache, et ainsi de suite, jusqu'au dixième morceau, Pink Love. Celui-ci est en effet le seul où les deux voix sont présentes, et le résultat est magique. A noter cependant que dans le processus d'écriture du groupe, les paroles n'arrivent qu'à la toute fin. J'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils se répartissent les textes, en tout cas, j'ai du mal à croire que ce partage quasi parfait sur l'album soit dû au hasard. Pink Love est quoi qu'il arrive un des plus beaux titres de l'album, et la ligne de basse dont le pattern rythmique donne l'impression d'une valse y est pour beaucoup. Je m'arrête là, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur tout l'album, mais je pourrais probablement faire un épisode entier rien que sur ce morceau-là. On s'en écoute tout de suite un extrait. La façon de composer de Blonde Dreaded a beaucoup évolué d'album en album. C'est pas vraiment que le groupe se soit calmé, mais petit à petit, on sent qu'ils ont concentré leurs efforts sur l'écriture et l'harmonie, avec des titres de plus en plus inventifs et une production qui va petit à petit faire preuve de plus de finesse. Malgré tout, soyons honnêtes, la première partie de la discographie n'est pas pour toutes les oreilles, et certains morceaux peuvent même donner l'impression de titres pour initiés pédants allant peut-être un peu trop loin. Je pense par exemple au titre Missile ++ sur In an Expression of the Inexpressible, où la voix de Kazuma Kino est abusément hors du cadre. Pourtant, en lui-même, le titre est sympa, et on peut même repérer une référence au Requiem pour un con de la BO du Pacha par le sinistre Serge Gainsbourg pour faire le lien avec l'épisode précédent d'Écoute ça. L'occasion de montrer que la musique européenne des années 60 à 80 a eu pas mal d'influence chez eux, comme on le verra par la suite. Si je tiens à vous faire découvrir cette première partie de discographie, c'est pour mesurer à quel point leur style a évolué, tout particulièrement à partir de Misery is a Butterfly. Les étiquettes étant ce qu'elles sont, on est passé de rock alternatif à du rock alternatif, mais sans qu'on parle vraiment du même. Harmoniquement, la mélancolie a toujours eu une place importante dans la musique du groupe, mais les aspérités du rock avec ses saturations de partout, ses cris et sa batterie bruyante ont laissé leur place à des sonorités plus pop. Et ce virage, que je situe en 2004, est annoncé par un premier coup de volant en 2000 avec l'album Melody of a Certain Damaged Lemon, où les synthés commencent à prendre le pas sur les guitares. J'aurais pu vous passer un extrait du titre A Cure pour montrer ça, d'ailleurs je vous recommande ce morceau, mais il se trouve qu'un de mes préférés de Blonde Redhead vient de cet album-là, et il va me permettre d'illustrer la subtilité que le groupe commence à montrer à cette période. Ce morceau c'est In Particular, et avant que je n'aborde un point guitare, je vous invite également à vous concentrer sur le jeu de batterie. Vous aurez peut-être noté que Kazu Makino dorénavant double ses voix et que ce doublage est loin d'être une superposition parfaite. En revanche, ça donne une moyenne beaucoup plus douce qu'auparavant.
C'est le moment de la technique.
Ce qui m'intéresse ici, c'est la guitare qui est jouée de manière percussive. Amadeo Pache ne gratte pas les cordes comme on le ferait classiquement. Ici, il a besoin de notes piquées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas censées durer dans le temps et c'est ça qui va donner un côté sautillant au riff. Il aurait pu le jouer au doigt, ce qui aurait donné quelque chose comme ça. Mais il obtient un son beaucoup plus doux en utilisant une autre technique assez atypique puisqu'il frappe délicatement sur les cordes avec la main droite. Pourquoi j'insiste sur un si simple détail? Tout simplement parce que dans la musique de Blonde Redhead, ces détails sonores sont extrêmement nombreux et c'est une grosse partie de leur charme. Même après 20 ans, je continue d'en découvrir d'écoute en écoute sur tous les albums. On peut parler de musique organique dans le sens où elle laisse la place à l'erreur, à l'imprécision, tout en étant extrêmement maîtrisée d'un point de vue de composition et d'harmonie. Une jolie combinaison qui trouve peut-être son origine dans le line-up du groupe qui se résume à trois personnes. La chanteuse, Kazu Makino, qui est passée par les Beaux-Arts, et le duo Amadeo et Simone Pace, deux frères jumeaux, qui sont quant à eux passés par une formation classique via le conservatoire. Le groupe était à son origine un quatuor, mais il s'est stabilisé sous cette forme de trio en 1996. Pour autant, la musique très riche ne se limite pas au trio batterie, basse, guitare, et on trouve sur quasiment tous les albums des musiciens additionnels pour les parties de piano, les cordes et la basse. Misery is a Butterfly ne déroge pas à la règle, et c'est un album qu'on pourrait presque ranger dans la pop orchestrale par moment, tant les arrangements de cordes y tiennent une place importante. Et pour cause, la personne qui est derrière ça est un nom qui me tient à cœur, puisqu'il s'agit d'Ivind Keng. Si ce nom ne vous dit rien, pas de panique, c'est normal, c'est pas un nom qui parlera au grand public. En revanche, si vous avez les mêmes goûts que moi, il est plus que probable que vous ayez déjà entendu certaines de ses participations, notamment au sein de Mr. Bungle, sur l'album California, mais aussi chez Secret Chiefs, dans le projet Matsada de John Zorn, avec Bill Frisell et pas mal d'autres. Un plutôt joli CV. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous rendre compte de la qualité de ces arrangements, j'ai un exemple idéal, le titre Doll is Mine. Du côté du trio Blonde Redhead, c'est déjà vraiment très bon, avec un thème polyrythmique sur la batterie, une chouette suite d'accords et une ligne de chant assez inventive. Mais les cordes apportent définitivement quelque chose d'assez unique. Écoutez bien l'extrait et concentrez-vous sur la façon qu'elles ont de se répondre à droite et à gauche. C'est superbe.
Your first time.
Et pour en revenir à la suite d'accords en elle-même, elle est tellement mouvante qu'elle a inspiré le saxophoniste Joshua Redman pour une version jazz qui donne presque l'impression que le titre était écrit pour ça. L'occasion de rappeler que la playlist de l'épisode est disponible en description. Autre exemple de titre où les arrangements de cordes sont centraux, Magic Mountain. Le morceau en lui-même est assez étrange, avec une structure très linéaire qui ne décolle jamais vraiment, sans que ce soit un défaut par ailleurs, mais dans lequel on trouve mille détails et dissonances, dont ce passage que j'adore. Après les cordes, on va s'intéresser maintenant à la basse. Les lignes sur Misery is a Butterfly sont plus que dignes d'intérêt, avec de nombreuses parties extrêmement mélodiques, et la personne créditée est un musicien islandais, Skúli Sverrisson. Je ne sais pas s'il est vraiment derrière la composition ou s'il est simplement l'interprète, il me semble qu'il n'est qu'interprète, mais ça vaut le coup de le mentionner pour deux raisons. D'abord, son pedigree, puisqu'il a entre autres joué avec le guitariste de jazz Alan Holdsworth, ainsi qu'avec John Zorn lui aussi, pour un des albums anniversaires de Matsada. Deuxième raison, il a formé un projet avec certaines des personnes pour qui il a tenu la basse, notamment la musicienne Oluf Arnalds, et je vous le donne en mille, Amadeo Pache de Blonde Redhead. Ce groupe s'appelle Seria et ils ont sorti deux albums, en 2006 et en 2010. Je vous passe tout de suite un petit extrait avec le titre qui a donné le nom au groupe et qui ouvre le premier album. En revanche, il est à noter que les parties de basse pure ne sont pas jouées sur scène. Pache reste bien à la guitare la plupart du temps, et Kazumakino passe de la guitare au piano en règle générale. Les lignes de basse sont pourtant bien présentes puisque le groupe s'appuie sur des bandes. Petite parenthèse à ce sujet qui peut répondre à quelques interrogations sur cet exercice un peu particulier en live. Il y a quelques années, je suis allé voir un concert avec un ami qui connaissait pas le principe, et il en était ressorti dégoûté et convaincu que le groupe jouait en playback parce qu'on entendait deux guitares là où il n'y en avait qu'une sur scène. Beaucoup de groupes aujourd'hui s'appuient sur des bandes qui ne sont rien d'autre en fait que des pistes supplémentaires, souvent issues des sessions studio lancées au début du morceau. Les musiciens sont appareillés avec un système de monitoring, une sorte de gros écouteur qui leur sert de retour. De cette manière, il est possible pour eux d'ajouter un clic, ou même des instructions spécifiques qui vont les aider à se synchroniser avec les bandes. En façade, de son côté, le public reçoit le son des instruments et des micros qui sont bien en live, mais aussi ces bandes sans le clic, ou sans les instructions quand il y en a. On peut penser ce qu'on veut de l'exercice, certaines personnes trouvent que ça dénature la prestation avec une impossibilité de sortir du rail et un rendu trop propre, pas représentatif selon eux de l'exercice du concert, tandis que d'autres apprécieront de voir leur titre préféré interprété d'une manière plus fidèle. En tout cas, c'est cette méthode qu'a adoptée Blonde Redhead avec le temps, ce qui est plutôt cohérent avec leur évolution musicale plus pop et plus orchestrale que leur début Noise. Pour en revenir à la basse, on peut très distinctement entendre deux types de jeux sur l'album Misery is a Butterfly. Le premier est plutôt conventionnel, on joue dans le registre grave avec, comme je le disais tout à l'heure, un jeu plutôt mélodique qui apporte plus de richesse qu'un soutien rythmique classique. Pour illustrer cette façon de jouer, jetons une oreille au titre Ekous. Ce morceau est celui sur lequel se termine l'album et c'est aussi le plus rock. après une intro très groovy à la basse, on peut remarquer que c'est aussi le seul sur Misery is a Butterfly où Makino se double et harmonise ses voix par elle-même. Et Blonde Redhead a une grosse spécificité concernant la basse, et pour l'expliquer, je vous raconte un peu ma vie. Depuis tout gamin, je passe mon temps à relever les parties de guitare de mes groupes préférés. Tant et si bien que même si je n'ai pas l'oreille absolue, ces transcriptions me prennent très peu de temps et peuvent souvent être faites sans instrument dans les mains. Pour autant, Blonde Redhead m'a souvent posé problème pour deux raisons. Je parlerai de la guitare à proprement parler après, mais il est aussi question de basse ici. Jetons une oreille à l'intro de Mélodie pour comprendre ça. Dans cette intro, il y a une véritable ambiguïté quant à l'instrument qu'on entend. Le timbre très rond et le son des cordes évoquent immédiatement la basse. Or, le jeu est typiquement celui d'un ou une guitariste. Autrement dit, excite la guitare qui ne permet pas d'obtenir ce timbre très spécifique, qu'elle soit standard ou même baryton, une sorte de guitare qui permet d'aller chercher des notes plus graves avec plus de rondeur. En réalité, Blonde Redhead utilise un instrument qu'on peut considérer comme hybride, et c'est parti pour un petit point instrument, le fameux point instrument.
C'est le point, c'est le point, c'est le point instrument.
L'instrument qu'utilise Blonde Redhead est assez peu courant puisqu'il s'agit d'une basse 6 cordes. Le nombre de cordes sur les guitares et les basses est en général assez simple à comprendre. Dès lors qu'on en ajoute, c'est dans le registre grave. Une basse classique a donc 4 cordes traditionnellement accordées une octave plus bas que la guitare. Mi, La, Ré, Sol. Contrairement à la guitare 7 cordes, qu'on trouve surtout dans le métal, les basses 5 cordes sont assez courantes et on ajoute un Si dans le registre grave. On obtient donc du plus aigu vers le plus grave, Sol, Ré, La, Mi et Si. La basse 6 cordes utilisée par Blonde Redhead fonctionne différemment dans la mesure où les cordes ajoutées sont dans le registre haut. Et on retrouve le même accordage que la guitare, avec toutefois une octave de moins. Physiquement, le manche de cet instrument est assez court pour une basse, mais reste plus long que celui d'une guitare traditionnelle. Il existe aussi des basses 6 cordes qui ajoutent une corde dans les graves et une dans les aigus. Généralement, on les trouve dans le prog moderne, avec des bassistes comme John Mayung par exemple chez Dream Theater. Il n'existe pas un très grand nombre de modèles de basses 6 cordes en mi, et on revient souvent sur des modèles de la marque Dan Electro ou Fender quand on fait quelques recherches. Quant aux registres qui les utilisent, on trouve principalement la New Wave, on pensera à Robert Smith des Cure par exemple, ou à l'intro de Love Will Tear Us Apart des Joy Division, ou le rock'n'roll des années 50 ou 60 avec Duane Eddy et certains titres d'Elvis Presley. Côté Blonde Redhead, il joue sur un modèle signature de la marque Eastwood, la TB64, qui reprend un vieux modèle japonais de la marque Teisco, et je vous invite à aller jeter un œil parce que c'est un très bel instrument. Alors, le plus simple pour réécouter ce son si particulier, eh bien c'est de jeter une oreille à un autre titre où on l'entend distinctement, et pour cela, je vais vous passer un extrait du titre éponyme « Misery is a Butterfly ». ». Ce titre est une pure merveille, et si vous êtes un ou une fidèle de l'émission, vous vous rappelez peut-être qu'on en avait parlé dans le 29e épisode de Super Cover Battle, puisqu'il avait été repris, plus qu'honnêtement je trouve, par le groupe X3 que vous entendez en fond pendant que je parle. Misery is a Butterfly est un des meilleurs morceaux de l'album, et si vous voulez mon avis, probablement un des meilleurs de leur carrière. Entre cet ostinato de violon, la mélodie du chant et le pont déchirant, difficile d'y résister malgré la voix au perché de Makino. Et si personnellement j'aime beaucoup ce titre, c'est aussi pour son thème principal, qui tient sur à peine quelques notes jouées avec un instrument dont j'adore la sonorité. Sur cet album, Kazu Makino s'accompagne souvent d'un Mellotron nouvelle version, le 4000D pour les puristes, qui est une refonte numérique de cet instrument cultissime dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans l'émission. Sauf qu'elle n'utilise pas le preset Mellotron. Elle utilise un preset qui est celui du clavicord, un ancêtre du piano qui inspirera ensuite le clavinet qu'on peut entendre chez Stevie Wonder par exemple. Ce preset a une sonorité très typée années 60-70, et entre ça et les arrangements de cordes minimalistes, on peut percevoir sans trop de difficulté une influence de la musique européenne de la même période, Serge Gainsbourg en tête, comme je le disais tout à l'heure avec la citation du Pacha. Et le rapprochement avec Gainsbourg ne s'arrête pas là, puisque le groupe a proposé un concert en annexe d'une expo dédiée à notre agresseur de femmes au fantasme pédophile qui s'accaparait le travail des autres en 2008. Bon, pour être tout à fait honnête, les critiques trouvables aujourd'hui sur cet événement sont cinglantes, puisque le groupe n'a, semble-t-il, pas joué une seule note du chanteur lors de cette représentation. C'est dommage, parce qu'ils auraient au moins pu proposer leur reprise de Slogan, morceau dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, dans laquelle Makino montre une proximité vocale troublante avec Jane Birkin, c'était en 1998. Mais au-delà de Gainsbourg, à qui j'ai consacré le dernier épisode d'Écoute ça avec l'analyse de l'album Histoire de Melody Nelson, on trouve aussi du Ennio Morricone dans la musique de Blonde Redhead. Le groupe le cite très souvent dans les interviews, et à mon avis, ils en ont beaucoup écouté, en particulier la BO du Clan des Siciliens, où on retrouve par ailleurs ce son de clavicorde. D'une manière générale, le groupe ne se cache pas et expose assez clairement ses influences. L'album In an Expression of the Inexpressible est par exemple une citation qu'ils attribuent à tort à Georges Delerue. La musique est l'expression de l'inexprimable. Et si vous ne savez pas qui est Georges Delerue, parce qu'il faut malheureusement reconnaître que son nom n'est pas si connu que ça, vous connaissez en fait très bien sa musique. Écoutez donc ceci. Et oui, c'est bien lui qui est derrière le thème de Camille dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Et encore, c'est bien parce que je veux pas trop m'attarder, mais j'aurais pu passer pas mal de choses que vous auriez sans aucun doute reconnues. A noter qu'en plus des bandes originales de certains des films les plus célèbres de la Nouvelle Vague, il avait également composé la BO de 100 000 $ au soleil, un film d'Henri Verneuil, également réalisateur du Clan des Siciliens, la boucle est bouclée. Une dernière chose quand même au sujet de la fameuse phrase à l'origine du nom de l'album. En réalité, cette phrase est une citation de Delerue, certes, mais qui citait lui-même Claude Debussy. En tout cas, ces influences européennes sont distillées un peu partout pour qui sait où regarder. Deux derniers exemples avant d'en revenir à la composition. L'artwork de l'album, qui provient d'une collection privée de Polaroid érotiques appartenant à Carlo Molino, un célèbre architecte et designer italien. La couverture représente une femme dans l'embrasure d'une porte, le chemisier dégrafé et entrouvert sur sa poitrine. La photo est placée dans un cercle, comme si on la regardait via une lentille de verre abîmée, et il s'en dégage une impression très fantomatique, voire d'un autre temps, sans vraiment pouvoir donner de date. Petite parenthèse, je trouve que cette couverture participe vraiment à l'ambiance de l'album, entre mélancolie, nostalgie et douceur. Et deuxième exemple donc, une vidéo que je vous ai trouvée et que j'ai mise sur le site écoutesapodcast.fr, prise chez Simone Pace, où l'on peut apercevoir plusieurs affiches de films punaisées au mur. Une sur Godard, une sur Max et les ferrailleurs, un film de Claude Sautet sorti en 71, et surtout l'affiche de Cannabis, un des films datant des débuts de la romance entre Jane Birkin et Gainsbourg, mais aussi et surtout une de ses premières collaborations avec Jean-Claude Vanier. Je vous laisse une nouvelle fois vous reporter à l'épisode dédié, vous avez compris. Et cette vidéo est une parfaite transition pour évoquer l'excellent travail de Simone Pace derrière la batterie. Pourtant, alors que j'écoute très souvent Blonde Redhead, son jeu ne m'avait jamais vraiment sauté aux oreilles. Et quelle grosse erreur! Le déclic a eu lieu lors du concert dont je vous parlais en intro, auquel j'ai eu la chance d'assister à Lille fin 2023. J'avais une visibilité plein axe sur lui et j'ai passé un super moment à le regarder jouer. Déjà, il faut le dire, il a méchamment la classe. Ça va être difficile à transmettre en audio évidemment, mais en dehors d'un charisme évident, il a aussi comme particularité de jouer avec ce qu'on appelle une prise traditionnelle, ou comme on l'appelle également, une prise tambour. Pour vous donner une idée, c'est cette façon de tenir une des baguettes avec la main retournée, la paume vers le haut et les doigts relâchés. Peut-être avez-vous déjà vu ça chez les batteurs de jazz. En tout cas, cette façon de tenir les baguettes est assez spécifique de l'apprentissage en conservatoire, et elle permet un jeu assez nuancé sur la caisse claire. Écoutez par exemple ce que ça donne sur le titre Maddening Cloud. Simone Pace dit de lui qu'il n'est pas un batteur très technique, et c'est peut-être vrai, sauf que si vous prêtez attention à son jeu, vous verrez qu'on est assez loin d'un simple pum-tchak-pum-tchak rock traditionnel. A noter que Maddening Cloud qu'on vient d'écouter est un morceau d'une très grande richesse, c'est le seul titre à intégrer de la guitare acoustique, des contrechamps assurés par Amadeo Pace lui-même, et une rythmique ternaire soutenue avec cette charlée sur les croches. C'est un titre que je trouve vraiment très réussi sur cet album. Et pour rester sur la batterie encore un instant, j'apprécie beaucoup cette tendance qu'a Pace de toujours jouer assez rapidement sur les morceaux de Blonde Redhead. Ça donne un côté un peu frénétique qui crée de la tension sans qu'on y prête vraiment attention. On trouve ça dans le travail de Caisse Claire sur Melody, autre référence plus que probable à Gainsbourg par ailleurs, sur la Charlie et les Tom de Misery is a Butterfly, ou encore dans un des titres de mon top 3 perso du groupe, peut-être bien mon top 1 sur cet album, le morceau Falling Man.
Start down in me, then I start to doubt myself.
et Falling Man est aussi très intéressant pour mettre en lumière un tic de composition qu'on retrouve dans plusieurs morceaux du groupe, les ostinatos rythmiques. Un ostinato, c'est un motif qui se répète en continu dans une pièce musicale. Cet ostinato, il peut être mélodique, c'était le cas des violons sur Misery is a Butterfly par exemple tout à l'heure, mais il peut être également rythmique. Ici, le pattern est le suivant. Deux notes sur la corde la plus grave de la guitare, un coup sur la corde de sol. Même si on se déplace beaucoup sur le manche, on entend très distinctement ce pattern se répéter. Et ce titre Falling Man rappelle très fortement le diptyque Futurism vs. Spaceism et Futurism vs. Spaceism Part 2 sur les albums Fake Can Just Be As Good et In an Expression of the Inexpressible. Écoutons déjà le premier pour voir ce que ça donne. Et oui, on était encore à ce moment-là dans la partie très rock de leur discographie. Le titre Futurism vs. Spaceism Part 2 est quant à lui une sorte de relecture avec une sonorité moins agressive. Mais si je me permets cette petite digression, c'est parce qu'elle va aussi faire écho à deux choses dont j'ai déjà un peu parlé. Vous allez entendre dans l'extrait une voix qui n'est pas celle d'Amadeo Pace, mais celle de Guy Picciotto, qui a produit une bonne partie de leur discographie. Et ce Guy Picciotto, je le rappelle, n'est pas n'importe qui, puisqu'il est surtout connu pour être le guitariste du groupe Fugazi, qui régnait sur le rock un peu cradingue du début des années 90 avec Sonic Youth et quelques autres. Quant au deuxième lien avec ce que je racontais auparavant, eh bien on revient sur cette francophilie avec des paroles baragouinées en français. Et pour rester sur la guitare, je reviens sur les difficultés de transcription que j'évoquais avec la problématique de la basse 6 cordes.
C'est le moment de la technique.
J'ai en effet mis pas mal de temps avant de savoir rejouer une grosse partie des morceaux de Blonde Redhead, alors que sur le papier, il n'y avait rien de bien technique. En fait, je me suis rapidement retrouvé devant des incohérences en termes de doigté, avec des choses bien trop complexes, ou des positions qui ne me permettaient pas de faire entendre toutes les notes dont j'avais besoin. Ce n'est qu'en farfouillant sur internet il y a une dizaine d'années que j'ai compris le problème. Amadeo Pace utilise des accordages atypiques que je n'ai vus que chez eux. Qui plus est, ces accordages s'appuient sur d'assez gros changements pour lesquels il faut pas mal tendre les cordes, et les guitaristes vous confirmeront qu'on n'aime pas trop cet exercice en général. Voici ce que donne un accordage classique en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et voici ce que donne l'accordage qu'on retrouve sur pas mal de titres en Mi bémol, Do, Fa, Fa dièse, Do, Mi bémol. Et cet accordage, il a quelques particularités mélodiques intéressantes. La première, c'est cette répétition du Mi bémol et du Do dans les aigus qui vont permettre de créer des résonances intéressantes au sein des accords, notamment via l'utilisation de cordes à vide. La seconde, c'est ce rapprochement entre le Fa et le Fa dièse. Ces deux notes ne sont éloignées que d'un demi-ton et elles vont faciliter l'apparition de dissonances. L'inconvénient, c'est qu'avec ce type d'accordage, toutes les positions d'accord traditionnelles sont à mettre à la poubelle, d'où la difficulté à repiquer les morceaux. L'avantage, c'est que les nouveaux accords créés seront vraiment très uniques et ils vont donner une véritable patte à leur progression. Exemple avec le titre du riff Messenger qui donne ceci. On pourrait techniquement trouver un arrangement proche avec un accordage plus classique, d'ailleurs il y en a beaucoup sur le net, mais on perdrait toutes ces résonances qui font le sel de cette progression d'accords. Messenger est un titre que j'aime beaucoup sur Misery is a Butterfly, en termes de compo et d'arrangement, c'est brillant. Je vous invite en particulier à prêter attention à la partition de batterie qui repose sur un vrai thème très reconnaissable, mais aussi à ce break très mélancolique, au synthé, un vrai bijou. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé de la musique de Blonde Redhead, mais si cet album tient une place si particulière dans leur discographie, c'est aussi parce qu'il est relié à un événement traumatique qui concerne Kazu Makino. En 2002, la chanteuse subit un grave accident de cheval. Elle chute et l'animal lui écrase le visage d'un coup de sabot. S'ensuivront de longs mois pendant lesquels elle sera incapable de chanter, puisque sa mâchoire sera lourdement suturée. Elle y perd des dents, se retrouve défigurée, mais sa principale crainte pendant cette période sera celle de ne plus pouvoir travailler. L'enregistrement est difficile et Guy Picciotto explique en interview que Makino a été obligé d'enregistrer certaines prises en mettant un filtre à café dans la bouche pour éviter des sifflements provoqués par son appareillage de soins. Autre événement, le groupe perd son local d'enregistrement et comme leur musique était en pleine évolution, ils se séparent du label qui les avait suivis jusqu'alors. Ils vont ainsi mettre pas mal de temps à accoucher de Misery is a Butterfly et on trouve dans les paroles quelques réminiscences de cette phase. C'est le cas notamment du titre d'ouverture Elephant Woman, qui cite le célèbre film de David Lynch, Elephant Man, et qui fait référence aux blessures liées à l'accident de Kazu Makino. Ce titre est un peu un titre somme, dans le sens où on y retrouve tout ce dont je vous ai déjà parlé jusqu'ici, avec de très beaux arrangements qui rappelleront Morricone, de la mélancolie et une voix sur le fil en termes de justesse, une magnifique façon de commencer l'album. Après, il ne faut pas faire de généralité sur l'album et sur cette thématique, puisqu'il ne porte pas uniquement sur cet accident, contrairement à ce qu'on peut lire ça et là sur internet. Le groupe s'en est d'ailleurs souvent défendu en interview, et même si on trouve d'autres références aux chevaux sur Misery is a Butterfly, Écoute, qu'on a écouté tout à l'heure en tête, c'est en réalité un thème récurrent dans les paroles de Makino. On trouve par exemple sur l'album Barragan le titre The Defeatist Anthem, Harry and I, auquel répond ensuite We are a real team, Harry and I, sur l'album 23. Et ce Harry dont il est question n'est autre que le cheval de Kazu Makino. Idem, l'album Penny Sparkle tient son nom d'un autre cheval à qui l'album est entièrement dédié. On trouvera pas mal d'autres références à cette passion dans le travail solo de la chanteuse si vous voulez creuser le sujet. Avant de conclure cet épisode, je suis obligé de faire une petite parenthèse sur un titre qui a eu un retentissement important sur Internet ces dernières années, même s'il ne fait pas partie de Misery is a Butterfly. Pas impossible d'ailleurs que vous fassiez partie des nombreuses personnes qui ont découvert le groupe via ce qui vient. Si vous vous rendez sur la page Spotify du groupe, vous remarquerez que le titre For the Damaged Coda, titre de conclusion de l'album Melody of a Certain Damaged Lemon, a un nombre d'écoutes 8 à 10 fois supérieur à tous leurs autres succès. Et pour cause, ce titre a été utilisé dans la très populaire série Rick et Morty. Il a même droit à une place assez singulière puisque c'est un des thèmes associés à l'antagoniste principal de la série. Tant et si bien qu'il a été adapté dans une version orchestrale lors de la saison 5 en 2021, soit plus de 20 ans après la parution du titre original. Voici donc un petit extrait de la version de départ à laquelle j'ai ajouté la version orchestrale. Et si vous trouvez ça très joli, parce que ça l'est, je vous invite à écouter la Nocturne en Fa mineur de Frédéric Chopin, parce que ça va vous rappeler quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, je suis un grand amateur de Blonde Redhead et j'aime beaucoup tous les aspects de leur discographie, qu'il s'agisse de leur rock grinçant des débuts à leur pop si singulière qu'ils pratiquent sur Misery is a Butterfly. Mais quid de la suite de cet album dans leur discographie? Eh bien, il faut admettre que tout n'a pas été à la hauteur. Barragan revenait à plus de simplicité, sans doute trop, et la tentative électro de Penny Sparkle n'a pas convaincu beaucoup de monde. En 2023, cependant, le groupe a sorti le très bon Sit Down for Dinner, qui est moins mélancolique, plus vaporeux et très agréable. Je vous recommande notamment les très bons Melody Experiment et Snowman. D'ailleurs, si vous voulez vraiment creuser le groupe, je vous ai mis en description et sur le site écoutesapodcast.fr une playlist complémentaire qui est mon best-of personnel dans l'ordre de leur discographie. Et si vous connaissez le groupe, vous savez que j'ai zappé un album dans tout ça, le fameux 23 qui a suivi Misery is a Butterfly et qui a un peu divisé. Celles et ceux qui ne l'ont pas aimé lui ont reproché d'être une redite plus pop encore de l'album qu'on vient de parcourir, et c'est au contraire, je trouve, sa plus grande qualité. Et pour vous en convaincre, je vous propose de jeter une oreille au titre Publisher, qui est une pure merveille.
You have, 'cause I'm so-
Et voilà pour cet épisode consacré à un des meilleurs albums du début des années 2000 à mon avis. Un album assez peu connu du grand public, mais extrêmement apprécié, que j'espère vous allez aimer autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via un commentaire sur Podcast Addict ou Apple Podcast. C'est très important pour moi, d'abord parce que c'est agréable, mais aussi parce que ça aide à faire connaître l'émission. Je rappelle par ailleurs que les épisodes d'analyse sont entièrement réalisés en solo par mes soins, de l'écriture au passage rejoué jusqu'au montage. Si vous souhaitez encourager ce travail et m'aider à faire quelques nouvelles acquisitions pour les prochains épisodes, sachez que vous pouvez faire un don régulier ou unique via le site de financement participatif Tipeee, dont le lien est en commentaire. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont soutenu mon travail jusqu'à aujourd'hui, et merci d'avance aux prochains et prochaines. Quant à celles et ceux qui voudraient m'aider sans pour autant mettre la main à la poche, c'est toujours possible. Vous le pouvez en partageant cet épisode autour de vous dans la vraie vie véritable et via les réseaux sociaux, dont vous trouverez une nouvelle fois les liens en description. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve plus tard pour une nouvelle analyse. C'était Dame pour Écoute ça. À très bientôt. Salut !